de ces dernières années et décennies. Si tu peux nous donner un ou deux exemples.
OK. Par le biais de ce petit projet d'animation culturelle qui est implanté dans divers milieux en Haïti, soit dans 8 zones géographiques. Et mon travail principal, c'est de coordonner le projet. Coordonner le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienter le projet, définir les grandes lignes du projet, m'asseoir avec les groupes, voir où ils veulent aller.
Très concrètement, tu peux nous donner un exemple?
Et par quels moyens? Par exemple, notre stratégie, c'est la formation. Mais la formation à quoi? Nous faisons des recherches sur les proverbes, nous les redécouvrons, on les apprend, on les étudie, on essaie de les comprendre. Nous apprenons des chants, nous composons aussi des chants, mais des chants qui traduisent la réalité actuelle ou bien qui décrit un fait qui avait frappé soit toute la société ou toute la communauté, par exemple. Nous étudions les proverbes, nous faisons du théâtre participatif, surtout pour amener les gens à une conscientisation culturelle d'abord, mais une conscientisation qui peut les éclairer, leur ouvrir les yeux sur leur situation socio-économique pour qu'ils fassent partie prenante de d'un changement.
Qu'est-ce que tu appelles le théâtre participatif?
Théâtre participatif, c'est un théâtre où la communauté, ou bien des gens de toute la communauté, a son mot à dire. Tu montres à partir d'un thème, par exemple, le sida, ou bien la misère, par exemple, tu montes une scène qui dure 5 à 10 minutes.
Donc là, tu as un groupe de base d'habitants qui ont préparé ça.
Justement, qui prépare ça. Et puis, tu le présentes soit sur la place publique, soit dans une cour, soit dans une église. Et après, tu invites les acteurs, les spectateurs à devenir des acteurs. Ils ont leur mot à dire. Il y a un problème qui se pose au niveau de la scène. Et eux, ils viennent parler. Ils viennent faire ou bien des propositions, ou bien expliquer le problème qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour résoudre ce problème, ou bien le problème peut rester problème, mais on est conscient de ce problème.
Ouais. Et ça, les habitants des villages sont rentrés facilement dans cette pratique-là?
Facilement, c'est tout nouveau. Nous venons juste de faire une formation en juillet, août dernier. Bon, ça avait très bien marché à la fin du séminaire. Là où l'on a fait, il y a eu au moins 10 personnes à prendre la parole. On a essayé dans un autre village. Eux, les gens étaient très réticents parce que c'est une forme de théâtre avec laquelle ils ne sont pas habitués en Haïti. Et j'avais écrit à un groupe, je sais qu'ils travaillent autour du séminaire qu'ils avaient reçu, et j'ai proposé qu'on essaye sur la place publique. Le groupe a carrément refusé. Il a dit ça ne marchera pas chez nous. Il faut faire ça ou dans une église ou bien dans une salle, mais dans un endroit fermé. Sur la place publique, ça ne marche pas. Donc c'est un élément nouveau en Haïti, mais qui est très important pour la conscientisation, bien pour faire passer des messages courts. Parce que ce n'est pas une grande scène, c'est des sketchs assez courts, mais assez parlant et qui offre aussi la parole aux spectateurs qui deviennent des acteurs.
Est-ce que tu peux nous raconter par exemple un des sketchs montés et puis les réactions des gens quand ils ont parlé? Est-ce que tu te souviens de ça et tu pourrais nous transmettre ça?
Mais oui, par exemple, je me rappelle, on a monté un sketch sur les conséquences du déboisement. Et deux personnes qui se sont mariées, le même jour, il y a eu des pluies et diluviennes qui ont emporté leur maison et ils étaient sur le lit à faire leur lune de miel. Et la maison les a emportés avec le lit. Et après, ils couraient au secours, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, mais c'est normal, il y avait deux grands arbres là qui pouvaient retenir l'eau, vous les avez abattus, et bien ça c'est la conséquence de l'action que vous avez posée. Vous avez abattu les arbres, c'est pour, je ne sais pas, vous sauver la vie ou bien pour vous procurer des produits de première nécessité, mais la conséquence maintenant, elle est lourde. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Et on a appeler comme ça des personnes du public pour venir donner leur impression. Est-ce que les gens devaient couper les arbres? Est-ce que c'est vraiment les conséquences de la coupe des arbres qui entraînent la situation générale d'érosion ou bien le désastre écologique qu'on vit en Haïti?
Les gens partent complètement de leur situation personnelle pour répondre et participer?
Personnelle et globale, parce que la situation elle est commune au niveau d'une zone ou d'une communauté, ils confrontent à peu près les mêmes problèmes. Et la situation du le désastre écologique en Haïti, ça c'est vraiment connu par tout le monde. Et en milieu rural, où il y a des projets qui essayent de faire un développement durable, qui conscientisent les gens. Et les gens sont conscientisés et motivés. Donc ils sont tous informés de la question, ils ont des réponses.
Est-ce que qui participe finalement à l'ensemble? Il y a les projets dont tu t'occupes, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Il y a des groupes permanents de chants, de danse qui aujourd'hui existent dans où tu travailles ou bien en entier dans Haïti. C'est une chose qui est importante ou bien c'est encore un grand travail à faire?
Non, c'est important, c'est là. Bon, il faut mettre Port-au-Prince et les grandes villes à part. Ça, c'est différent. Dans les grandes villes, et à tout. L'art est très vivant, très présent, la culture est très... Elle est présente, elle est là, on la sent, mais dans les milieux ruraux, c'est différent. Nous autres, pour inaugurer le projet, en fait, c'est parti de nos partenaires et de nous-mêmes, Helvetas. Alors, on a donné la responsabilité de formation technique à un centre spécialisé, un centre qui se connaît, dont... La directrice s'y connaît très, très bien en théâtre, en art dramatique et tout. Et après, chez le partenaire, il y a un comité d'animation culturelle. Et chaque membre de chaque comité est responsable d'un groupe culturel.
Ça, c'est à l'échelle d'un village ou d'une région?
D'un village, pas d'une région. Parce que dans une région, il peut y avoir beaucoup d'autres groupes qui ne fassent pas partie de Helvetas. Là, je vous parle au niveau des projets partenaires Helvetas.
Puis en général, sans parler seulement du projet Helvetas, le développement de groupes culturels en Haïti, tu as l'impression que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance?
De plus en plus d'importance, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit au niveau... pas des chants, ça prend de l'importance et c'est fort heureusement, hein, et parce que c'est la richesse qui nous reste et qui s'élargit de temps en temps, de plus en plus. En
fait. Est-ce qu'il y a des moments conceptifs de plus privilégiés dans la vie des gens? Vous profitez pour, par exemple, faire ces pièces de théâtre ou bien je sais pas, des cérémonies, des fêtes familiales ou je ne sais, fêtes de village. Qu'est-ce que vous utilisez comme moment particulier?
Par exemple, chaque région à ces moments particuliers. Évidemment, au niveau de notre projet, on fait des petites soirées culturelles, même en week-end. Mais en été, il y a beaucoup, beaucoup d'activités culturelles parce que les jeunes sont en vacances, ils sont plus disponibles. Au moment des fêtes patronales aussi, qui rassemblent beaucoup de gens, là, on fait des représentations. Au niveau des fêtes de fin d'année aussi, au niveau des fêtes religieuses. Donc, il y a beaucoup de ces occasions qui rassemblent les gens. Mais quant à des situations ou bien des événements, oui, on ne manque jamais d'en profiter. Par exemple, il y a ce naufrage-là qui vient de se produire au niveau du bateau La Fierté Gonavienne. Eh bien, je suis sûre que tous les groupes ils vont monter des sketchs à partir de cet accident pour conscientiser les choses, pour les informer, les conscientiser, leur donner la parole.
Est-ce que à ces activités participent autant les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées? Est-ce que tout le monde est mis à contribution?
Tous les groupes d'âge participent. Les plus âgés, les octogénaires, ils sont un petit peu plus réticents, mais nous nous sommes fixés comme objectif de les atteindre. Nous leur demandons leur participation, non comme spectateurs, mais comme acteurs. Il y en a qui ont déjà, de façon concrète, motivé et fait remarquer leur participation. Fond des Blancs a monté toute une cassette de contes par des gens de 50 à 80 années. Et il y a d'autres groupes qui ont des sections enfantines, parce que les groupes sont en majorité de jeunes, mais il y a des sections enfantines et ce qu'on appelle les notables ou les octogénaires, les vieillards, ils ont leur place au sein des groupes culturels, soit comme conseiller ou bien carrément comme spectateur. Et quant à la présence homme-femme, il n'y a pas encore d'équilibre. Nous luttons pour qu'il y ait un équilibre homme-femme. Dans les représentations, on remarque beaucoup plus de femmes.
Comme spectatrices?
Comme spectatrices. Mais dans les formations, on remarque beaucoup plus d'hommes. Pourquoi? Eh bien, elles sont retenues par des travaux domestiques et surtout par la jalousie de leur mari, ou plus encore par la peur d'émancipation de ces femmes par leur mari.
Est-ce que tu sais, Concepcie, si justement certaines femmes utilisent le théâtre, par exemple, participatif, pour poser des questions concernant les femmes en particulier? Par exemple, la jalousie de leur mari. Pourquoi elles ne peuvent pas sortir en dehors de la maison?
Oui, parce que de temps en temps, ils montent des sketchs basés sur la jalousie, des scènes de jalousie. Donc, je suis sûre qu'au moment opportun, à la maison, quand les scènes éclatent, eh bien, elles reprennent. Et surtout qu'elles sont très présentes dans ces spectacles. Elles sont actrices. Et elles ne manquent pas de les utiliser. Même au moment des répétitions, quand le garçon là à côté dit quelque chose, eh bien, on prend tout de suite l'exemple de la scène pour se défendre, parlant des femmes.
Par exemple, donne-nous un exemple. Tu dis quand le garçon dit quelque chose. Par exemple, quoi?
Par exemple, on montait une petite scène sur une femme qui trompait son mari. Et le mari n'arrivait pas à s'en rendre compte. Et puis, à la fin, il y avait une femme à côté. C'était une actrice aussi. Et puis, un autre qui passait qui lui disait, putain, excusez-moi l'expression, tu ferais la même chose. Et puis, la femme a répondu, oui, c'est toujours les femmes. Hein? On voit toujours les femmes, mais les hommes, on ne vous voit pas. Et bien, si les hommes ont le droit de tromper leurs femmes, et bien, les femmes, elles doivent avoir le droit de tromper leurs maris aussi. Sinon, c'est 50-50. Ça, c'est ce qu'elle a répondu.
Concepcie, pour conclure, tu as aujourd'hui la conviction que par le biais de ces modes d'expression culturelle, les choses vont réellement changer en matière de développement. Les Haïtiens vont trouver une façon à eux de reconstruire leur pays et de créer une société qui leur convient.
Moi, je pense que c'est un outil de développement, la culture. Et c'est à nous de voir comment l'utiliser, cet outil, pour nous développer, pour développer notre pays. Parce que définitivement, le pays, il ne veut pas rester comme ça. La situation doit changer. Et je reste convaincue à partir de ce que je vois déjà, de ce que nous réalisons déjà dans un petit projet qui a été planté il y a seulement un an, la façon dont les gens se manifestent par rapport à cette activité, toute l'évolution qui se fait au niveau personnel de la part des acteurs aussi, des jeunes qui étaient arrivés vraiment la tête baissée quoi, et dans les formations et qui sont maintenant déjà formateurs. Il y a un développement personnel qui s'est déjà fait et des témoignages qu'ils donnent eux-mêmes. Je reste convaincue que la culture est un outil très puissant de développement. Alors, il s'agit de s'organiser, d'utiliser sa culture à bon escient pour atteindre cet objectif. Mais c'est un outil très puissant. C'est peut-être pas le seul outil, mais c'est pas le plus puissant. Hein.
Quel sens a alors aujourd'hui cette semaine que vous organisez, Concepcie, avec Helvetas, ici à la Maison des Arts du Grütli? C'est l'idée de faire découvrir aux gens de Genève, et d'ailleurs, je crois que l'exposition va circuler, il y a une exposition, il y a du cinéma, il y a des rencontres, des débats, etc. Mm-hmm. Pourquoi faire ça ici? Alors, si j'ai bien compris, le sens de votre projet, c'est plutôt que les Haïtiens trouvent leur force dans leur propre existence, mm-hmm. leur propre savoir. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va susciter, une telle expo, chez les gens ici, à ton avis?
D'abord, une première chose, c'est que la culture n'a pas de frontières. Deuxièmement, il y a une section genevoise d'Helvetas ici. Et Helvetas n'a pas de projet en elle-même, mais contribue beaucoup à l'amélioration des conditions de vie des milliers de paysans en Haïti. Et il y a beaucoup de Genevois qui cotisent, parce que Helvetas vit des fonds de ses membres, des cotisations de ses membres. Donc, c'est une façon de faire connaître Haïti à Genève et une façon de montrer aussi ce que nous faisons en Haïti. Donc, ça a deux dimensions. Une dimension, c'est Haïti, ce qu'elle est, la culture. Et la deuxième dimension, c'est le rôle de la culture dans le développement que prône Helvetas en Haïti.
Est-ce que tu peux imaginer?
Et là, dans cette deuxième dimension, on va présenter un peu le travail d'Helvetas en Haïti.
Est-ce que tu peux imaginer que ce qui se passe en Haïti, c'est-à-dire ce pouvoir que peut avoir la culture pour comme outil pour discuter d'une forme de développement, est-ce qu'éventuellement ça peut avoir une résonance dans la tête des gens ici en se disant par le biais de notre culture, qu'est-ce que nous pourrions faire?
Mais je pense. Quand ils voient que les autres bougent ailleurs, ils peuvent bouger aussi. Bon, évidemment, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je ne sais pas si la culture peut être, de toute façon, dans quel que soit le contexte, dans quel que soit le pays, la culture reste un outil de changement. Parce que par la culture, par les manifestations culturelles, des chants, des danses, on s'exprime. On dit ce qu'on vit, on dit ce qu'on pense, on dit aussi ce qu'on veut. Donc c'est un moyen de communication très puissant. Alors, par la communication, je pense qu'on peut changer bien des choses. Donc la culture, à Genève aussi, peut susciter des changements.
Voilà, ça c'était encore un ensemble haïtien, un ensemble vaudou de la musique racine, la tradition racine que nous le disait Concepcie Gervais tout à l'heure. Alors dans quelques instants, je vous donnerai des informations complémentaires, supplémentaires sur ce qui va se passer pendant ces journées culture et développement à la Maison des Arts du Grütli à Genève, que ce soit cinéma, exposition, rencontres, etc., débat. Mais tout de suite, eh bien, je vous propose de découvrir un ensemble cubain, parce qu'il faut bien rester dans les Caraïbes et vous savez bien qu'il y a des liens très très forts entre ces différentes îles et leurs traditions culturelles, entre autres parce qu'elles sont toutes influencées par l'Afrique, elles sont toutes influencées par bien sûr aussi leur histoire, le fait d'avoir été une terre où on a amené tant d'esclaves venus d'Afrique, et on retrouve des points communs. Alors là, c'est le groupe Afro-America qui est constitué d'un homme, c'est Justo Peladito Hernandez qui dirige l'histoire, et il est entouré de quatre femmes qui sont aux percussions. Ces quatre femmes, c'est Mercedes Leigh Bravo, Florinda Sabido Pérez, Maria Trujillo Cubas, Juliana Larinaga, je ne suis pas sûre que l'accent est bon, Penalver, qui chante et qui joue des percussions. Alors, la rumba, ce qu'elle joue, est née lors de l'abolition de l'esclavage dans les zones périphériques des villes cubaines. Et dans ces quartiers pauvres, les populations blanches et noires se réunissaient à l'occasion des fêtes collectives qu'on a appelées rumba. Avec le temps, la signification du mot s'est élargie pour désigner un genre musical et chorégraphique, profane bien sûr, composé avec des caractéristiques particulières. Par exemple, le moment lent qu'on appelait yambou, le moment plus rythmé qui était le guaganco, et puis encore plus rythmé, c'était la columbia. Et on trouve des petites caisses de bois qui font la rythmique d'accompagnement du chanteur qui lui joue des claves. Et puis plus tard, on a remplacé ces caisses de bois bien sûr par des tambours qu'on appelle tumbadoras et qui trouvent leurs origines dans les anciens tambours des esclaves bantous. Alors aujourd'hui, naturellement, le mot rumba, vous le connaissez sûrement, ça se rattache plutôt à un style de musique qu'à une danse. Mais cette musique exprime toujours les tourments, les joies, les revendications des couches les plus basses de la population. Et alors, ces quatre femmes qui illustrent, qui sont dans cet ensemble vocal qui s'appelle Afro-America, eh bien, elles sont toutes percussionnistes et chanteuses. Elles entourent donc ce monsieur qui est Justo Peladito Hernandez. Et à eux cinq, eh bien, ils ont deux caractéristiques. C'est-à-dire que premièrement, ils emploient beaucoup d'instruments de percussion, accompagnant une chanteuse ou un chanteur soliste qui est ensuite soutenu par le chœur. Et deuxièmement, leurs tambours, bata, sont joués uniquement par des femmes, ce qui est tout à fait exceptionnel. En effet, lors des rituels religieux, eh bien, ces instruments sont normalement réservés aux hommes. Afro-America. Alors, je vous disais que j'allais vous donner quelques informations sur ce qui se passerait durant ces journées culture et développement Haïti, AYITI, Haïti, HAITI, organisées par l'Association pour le développement Helvetas. Alors, tout d'abord, une exposition qui a pour thème l'arbre entre terre et eau. Mythes, usages et projets en Haïti. C'est un regard posé sur la culture, la vie quotidienne et les problèmes de la paysannerie haïtienne et sur les projets de développement que soutient Helvetas. Et ça, au travers donc de ces trois thèmes qui sont l'arbre, le lien entre les esprits et les humains, producteurs, protecteurs, et tout ça que l'on trouve dans le paysage haïtien depuis des siècles de défrichement, l'eau aussi, la demeure des esprits, la source de vie pour l'homme et ses cultures. Et se fait rare dans les villages à cause de la sécheresse, la terre nourricière porteuse de la force spirituelle des ancêtres, qui est aujourd'hui bien sûr très inégalement répartie et surtout très érodée et appauvrie. Alors vous pouvez découvrir cette exposition à partir du 25 septembre tous les jours, de midi à 21h, donc à la Maison des Arts du Grutli, rue du Général Dufour, numéro 16. Il y aura aussi des conférences qui vous sont proposées pendant ces journées, je répète, du 25 septembre au 5 octobre à Genève, Maison des Arts du Grutli. Première conférence, elle aura lieu le 1er octobre à 20h, c'est sur le thème « Résoudre les conflits pour se développer ». Et Marc Allenbach, qui est volontaire des Brigades de paix internationales, présentera le travail de cette organisation en Haïti. Il y aura une Haïtienne qui vit en Suisse qui parlera des conflits, graves obstacles au développement et de leur résolution dans la culture haïtienne. Cette Haïtienne, c'est Virginie Gaspard. Une deuxième rencontre, le 4 octobre à 17h, sur le thème art et vaudou. Et c'est une ethnologue et historienne de l'art, Anne Lescaut, qui mettra un peu en lumière le rôle important du vaudou, qui aujourd'hui peut être considéré un peu comme le ciment religieux et culturel du peuple haïtien et la source d'inspiration pour de nombreuses de ses artistes. Et dernière rencontre, sur le thème des journées elles-mêmes, c'est-à-dire culture et développement, le 4 octobre à 18h15, donc qui fait suite à la conférence sur art et vaudou, sur le thème donc culture et développement, c'est-à-dire la coopération au développement doit intégrer cette dimension culturelle comme un élément essentiel de la prise de conscience collective. Et c'est bien sûr Concepcy Gervais avec qui nous venons d'avoir un entretien qui présentera ce thème avec aussi Gian Nicolai qui est le coordinateur des programmes d'Helvetas en Haïti. Et puis il y a des animations pour les petits et pour les grands, par exemple un atelier de peinture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tableaux des peintres haïtiens, mais c'est absolument magnifique. Alors on peut espérer que cet atelier de peinture pour les enfants de 5 à 10 ans, qui peuvent s'inscrire directement sur place, qui se fera inspirer par des contes haïtiens, où on racontera aussi des contes haïtiens, on organisera des jeux. Tout ça c'est entrée libre et c'est le 4 octobre de 14h à 17h au deuxième étage de la Maison des Arts du Grutli. Il y a une exposition de photographie qui est déjà installée depuis un moment au Centre de la photographie à Genève. C'est le photographe Christophe Bourgodieu qui a photographié Haïti entre 1992 et 1996. C'est le reflet d'un travail qu'il a fait pendant cette période-là. C'était pendant l'embargo et après l'intervention américaine. Et ces images traduisent bien sûr le sentiment d'accablement du peuple haïtien pendant cette période-là, mais aussi toujours cette passion et cette énergie qui continue à donner un peu de la force au peuple haïtien malgré tout ce qu'il a pu endurer. Cette exposition durera jusqu'au 31 octobre et vous pouvez la visiter du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 et le jeudi soir jusqu'à 21h. Et puis, vous pourrez retrouver la merveilleuse Mimi Barthélémy, cette femme haïtienne qui, inspirée de toutes les histoires de son enfance, nous raconte tous les célèbres contes et magnifiques d'Haïti. Elle est accompagnée d'un guitariste, Serge Tamas, et elle nous raconte tout l'esprit rebelle qui anime son île, ainsi que les victoires qu'ont obtenues ses ancêtres esclaves. Et le titre de cette soirée, c'est « Soldats marrons », puisque c'est le nom que l'on donnait aux esclaves qui se sont révoltés en Haïti pour aboutir à l'indépendance de l'île, puisqu'Haïti fut le premier pays d'Amérique latine à conquérir son indépendance, et c'était en 1804 pour instituer la première république noire du monde. Alors, Mimi Barthélémy, Soldat marron, une soirée de contes magnifique avec aussi des chansons, parce que Mimi chante aussi. Et c'est le jeudi 2 octobre à 20h30 au Moulin à Danse, rue du Stand 20. C'est ouvert à tous, contrairement aux soirées habituelles du Moulin à Danse. Donc, je répète, Moulin à Danse, jeudi 2 octobre. Et vous, si jamais vous l'avez raté là, vous pouvez la retrouver à Sion ou à Lausanne ou à Neuchâtel. Sion, c'est le 27 septembre, Lausanne le 28 septembre et Neuchâtel le 1er octobre au Théâtre du Pommier. Et pour terminer, un cycle de films que vous pouvez découvrir au cinéma Scala. Je vous en parle un tout petit peu plus en détail tout de suite.